Ancien Testament ou Nouveau Testament, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, qui concerne spécialement, merci, l'histoire d'Israël, ou est-ce que vous préférez le Nouveau Testament qui concerne Jésus, sa parole, son enseignement? Pour ma part, oui, j'ai entendu les deux. Pour ma part, je trouve mon plaisir dans les deux. Mais on voit que ces deux testaments, ces deux parties de la Bible sont liées, vraiment liées, et qu'en fait, c'est une unité, c'est la Bible. Il y a quand même une expression que j'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop, ça me fait bizarre, c'est testament. Parce que testament, ça me fait penser au document qu'on appelle testament. Vous savez, quand un testateur, quelqu'un, prévoit son décès, bon, ça peut être dans 50 ans, mais quand même, il écrit un testament. Et donc, ça, c'est un peu sinistre, c'est un peu triste. Alors, quand il y a des situations comme ça, moi, j'aime bien aller voir finalement quel est le mot vraiment dans l'original. Et là, c'est en grec, c'est diathekes, je crois. Et puis, on voit que dans le mot Ancien Testament, on le trouve trois fois, ce terme. En tout cas, dans la traduction de Louis II. Mais quand on prend ce diathekes, il est 33 fois. Alors, on comprend bien que on peut peut-être le comprendre autrement, ce mot. Et c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, il faut que je prenne ma Bible. Ah, mais si on a un trésor, hein, merci, je vais prendre la Bible. Bon, c'est Hébreux 9, 15. Dans le Nouveau Testament, il y a deux fois ce mot. Qu'est-ce que j'avais dit? Diathekes. Voici pourquoi Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Ce qui a été traduit par testament, c'est aussi traduit par alliance. Et quand je regarde ce verset et qu'on dit l'Ancien Testament, Nouveau Testament, et qu'on lit ici une alliance nouvelle et une première alliance, j'ai l'impression que ceux qui ont mis cette étiquette, parce que c'est une étiquette quand on dit Ancien Testament, Nouveau Testament, ça n'a pas été dit tout de suite, hein, ça a été dit le deuxième siècle, quand des théologiens ont réfléchi, puis on dit on va donner des noms, comme on appelle la Bible, l'ensemble des livres, on va aussi délimiter ça, et puis c'est là qu'ils ont mis ces deux termes. Mais moi j'ai l'impression qu'ils pensaient à l'alliance, plus qu'à un testament en cas de décès. Voilà. Donc, si vous entendez quelqu'un un jour qui parle de la Nouvelle Alliance en parlant du Nouveau Testament, vous ne devrez pas vous dire qu'il est farfelu, bizarre. Il y a une certaine logique. Mais pour moi, aujourd'hui, pas de souci, je veux quand même garder les termes Ancien et Nouveau Testament parce que sinon, on va mélanger les pinceaux. Puis ce qui compte, c'est surtout de se comprendre. Cependant, je veux garder justement ce mot alliance. D'ailleurs, ce mot alliance, c'est ce qui va maintenant faire la force de ce que je vais vous partager. Et on retrouve aussi ce mot dans la bouche de Jésus. Un jour, Jésus était avec ses amis, donc ses disciples, et puis ils vont commémorer donc une des fêtes de l'Éternel, comme ça se fait d'habitude, c'est un peu presque traditionnel. Ils sont là, et alors qu'ils ne s'attendent à rien, Jésus saisit dans sa main un objet et puis il dit « Ça, c'est l'alliance. C'est la nouvelle alliance en mon sang. » Vous avez vu où je l'ai pris, vous savez exactement tout ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci, mais mettez-vous dans la peau de ces amis de Jésus qui s'attendent à rien. Ils savent bien qu'on est en train de commémorer la sortie d'Égypte, Pâques, mais ils savent ouais, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Et moins de 24 heures après, le sang de Jésus a coulé et il était mort. Donc, c'est un point très important. Je vais le poser là, ce sera mon verre, hein, si jamais. Voilà donc l'alliance. Et On va maintenant passer dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, le premier livre de la Bible, le premier chapitre, le premier verset et le premier mot. Alors, Léa nous a déjà fait travailler, qui c'est Jean 3,16. Moi, je ne sais pas si elle est plus simple, ma question, mais il me semble. Je ne vous demande pas un verset, je vous demande un mot. Le premier mot de la Bible. Qui c'est qui le sait? Oh là là, mais alors ça, on a des champions parmi nous. J'allais pas si loin, mais on va revenir, mais on va parler français quand même. Ou bien je vais chercher la Bible Kikongo. Non, en français d'abord. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Et Bereshit, merci, parce que je voulais venir. Donc tu as eu parfaitement raison. Bereshit, on traduit au commencement. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Mais pour un hébraïsant, pour quelqu'un qui parle l'hébreu, il y a comme un jeu de mots dans ce Bereshit. Parce qu'on entend, la deuxième syllabe, c'est Esh. Et Esh, ça veut dire le feu en hébreu. Et si vous prenez les deux autres syllabes qui restent, la première et la dernière, Berit, ça veut dire l'alliance. Et si au lieu de dire Bereshit, on disait Berit Esh, ça veut dire alliance de feu. Et finalement, ce livre, c'est une alliance de feu. On pourrait, après tout, dire, on pourrait, à la place de mettre la Bible, alliance de feu. On va prendre l'alliance de feu, puis on va lire la première alliance et la deuxième alliance. Bon, c'est des étiquettes, c'est pas si important. Donc, c'est vraiment au commencement, c'est un jeu de mots. Mais ce jeu de mots, il est suffisamment interpellant que ça fait réfléchir beaucoup. Alors, il y a encore une particularité pour une alliance. Nous, en français, dans la langue française, on conclut une alliance, on fait une alliance. Et il y a un peu l'idée, c'est souvent des pays, c'est qu'il y a peut-être deux pays ou plusieurs. On se met autour d'une table, on négocie un peu les points et puis finalement, on fait une alliance. Au niveau du langage biblique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a bien une alliance, mais on parle, alors là c'est un peu bizarre, on coupe une alliance. Je ne peux pas vous dire exactement quelle est la pensée sémitique là, de couper une alliance, mais on voit que c'est une alliance, elle est décidée, elle sépare les choses. Et pour illustrer ça, maintenant, on va prendre un récit où il y a une alliance et où on parle de couper et où on parle de feu. Comme ça, ça nous aidera à suivre. Et c'est tout au début de la Bible, j'allais dire c'est la page 10 ou 11, mais je crois que c'est mieux de donner la référence pour Denis. Donc, non, je plaisante. C'est le chapitre 15 de Genèse et le verset 7 et suivant. Alors, je vais lire tranquillement, un petit peu raconter, on verra comment ça se donne. C'est donc d'Abraham qu'il s'agit. Et c'est Dieu qui est là, qui est présent. L'Éternel dit à Abraham encore, donc verset 7, hein, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais parlé de Lech Lecha. La première parole que Dieu a dit à cet Abraham, il lui a dit « Lech Lecha » et j'avais commenté en disant « Marche ». Chez toi. Mais il était ailleurs. Et il est allé, et il est arrivé, et il est maintenant dans ce pays. Et puis, l'Éternel lui dit ça. Puis Abraham répondit, « Mais Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai, ce pays ?» Abraham, c'est un homme de foi, de confiance. Ce n'est pas qu'il a un doute. Mais il a besoin, ou il demande, pourquoi pas, une confirmation. Pas parce qu'il doute, mais parce qu'il aimerait un encouragement aussi. Et moi, je pense aussi à nos situations. On croit en Dieu, mais il y a des fois des choses qu'on ne voit pas encore. Et je trouve que ça peut être légitime, c'est pas ne pas avoir foi en Dieu que de dire, mais Seigneur, fais un signe, un encouragement. C'est peut-être pas encore la totale, mais on a ça. Et c'est ça qu'il a fait, Abraham. Et alors, l'Éternel ne lui fait surtout pas de reproche, il lui dit, bon, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. je pense qu'il lui a dit encore ce qui se passe par la suite, parce qu'Abraham prit tous ses animaux, les coupa, vous voyez, j'avais dit couper une alliance, hein, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Je pense que Dieu lui a dit de partager, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Mais ensuite, que faire ? C'était dans la journée. Alors là, le verset est tout court, le verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. C'est vite lu, mais je pense pour Abraham, c'était un après-midi, sous la chaleur. Et puis, en ayant de la viande qui était là, il y a les oiseaux de proie qui viennent, et peut-être que vous avez déjà vu des documentaires, peut-être, je ne sais pas, il y a les hyènes qui sont en train de manger un cadavre, et puis il y a les oiseaux de proie derrière qui viennent, qui sautent, qui sont là, alors il faut les chasser un peu, mais ils viennent par derrière. C'est très pénible. Et c'est aussi une image, hein, j'entends dans nos vies, des fois il peut y avoir des situations difficiles, ce n'est pas qu'on n'est pas en règle avec Dieu, mais il faut se battre. Et il est vraiment fatigué en fin de journée au coucher du soleil, verset 12. Un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par les terreurs et une grande obscurité. En plus de ça, la journée est terminée, je pense que les oiseaux de proie, ils partent. Et puis lui, il est vraiment fatigué, mais il a des terreurs aussi. C'est là qu'on voit aussi que suivant les situations, il y a des fois des combats qu'on appelle spirituels, qu'on ne peut pas comprendre et... Il peut y avoir des moments où on est vraiment, vraiment bousculé. Et puis là, l'Éternel parle à Abraham. Il dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix. » Rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et puis, je saute au verset 17. Quand le soleil fut couché, moi je pense peut-être qu'il s'est réveillé. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Si vous lisez en hébreu, c'est pas le mot flamme, c'est le mot esh qui veut dire feu, au singulier, un feu. Qui passe, qui consume peut-être ses sacrifices, ce n'est pas précisé, mais impressionnant. Pour Abraham, il a été impressionné. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Coupa, Bérit, avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Et là, si je prends une page avant, en fait, Dieu parlait déjà avec Abraham et lui avait dit un peu la même chose. Il lui a dit, en effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Et je me rappelle d'un orateur qui était venu ici à l'église. Je crois que c'était éternellement. Et il disait, qu'est-ce que ça veut dire éternellement? J'ai été voir dans le dictionnaire. Ça veut dire éternellement. J'ai envie de paraphraser, puis dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toujours? Ben, ça veut dire pour toujours. Et 500 ans plus tard, initialement, il y avait eu un dérèglement climatique, ce qui fait que les premiers descendants d'Abraham sont allés se réfugier en Égypte. Ils y sont restés, c'est devenu un peuple, et on a profité d'eux, on en a fait des esclaves. Et 500 ans après, donc c'est un bail, hein, on lit dans Exode 2, verset 24, « Dieu entendit leur gémissement, donc de tout ce peuple, des descendants, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. » Dieu se souvint. Peut-être nous, quand on lit ce souvenir, on dit « Ah, Dieu, il l'avait oublié. » Ah, je m'en souviens. C'est pas, ce verbe « se souvenir » en hébreu n'a pas peut-être la même... exactement la même signification qu'en français. Se souvenir, en hébreu, c'est revivre. Ça redevient d'actualité. Et d'ailleurs, quand on prendra ce pain, ce vin, on sait que Jésus a dit « Faites ceci en souvenir ou en mémoire, en souvenir de moi ». Réalisez que ce n'est pas juste « Ouais, on se souvient il y a 2000 ans ». Non, on le revit, on refait alliance avec Jésus aujourd'hui. C'est ça, ce souvenir. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on connaît l'histoire. Donc, Dieu a utilisé Moïse et Moïse a, en guillemets, libéré, c'est Dieu qui a libéré, mais ce peuple qui est sorti et qui allait en direction de ce pays promis que Abraham avait habité, mais il ne possédait pas. Il était quand même un étranger sur cette terre. Et là, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, j'entends, sinon ça vaut la peine une fois soit de lire ou bien de trouver une bande dessinée, quelque chose pour réaliser ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans ce pays, ça ne leur a pas été donné sur un plateau, il a fallu aussi se battre, comme souvent, les promesses sont là, mais il faut se battre pour, mais la victoire est assurée. Et là, ce peuple s'est développé, vous connaissez l'histoire avec Samuel, les rois, Saül, David, Salomon. Et puis, là, il y a eu quand même aussi des problèmes. Ils ont eu des bisbilles entre eux. Et puis, finalement, le pays s'est séparé. Il y a eu un royaume au nord, un royaume au sud. Et puis, après un certain nombre d'années, finalement, un malheur est venu par là-dessus. C'est des grandes nations. Il y avait ce qu'on appelait l'Assyrie. Et l'Assyrie, les Assyriens sont venus et ont pris et déporté les habitants du nord. 50 ans après, je pense que cette nation a diminué en force et c'est les Babyloniens qui étaient la puissance de la région. Et eux sont venus et ils ont pris le sud, ils ont déporté. Et finalement, beaucoup, presque tous les Juifs ont été déportés et cette terre est restée désolée. Et puis un peu plus tard, une nouvelle nation, un nouvel empire qui vient, c'est les Perses, très connus. Et c'est les Perses qui deviennent un peu les maîtres de toute la région et automatiquement de ces territoires. Et là, ils sont un peu plus sympas que les deux précédents parce qu'ils disent, s'il y a des Juifs parmi nous, parce qu'ils étaient déportés dans ces pays, qui ont envie de retourner dans ce pays, vous pouvez y aller, on vous autorise. Et bien sûr, il y a un groupe qui est allé, il y a Néhémie, Esdras, on trouve ces histoires dans la Bible. Et là, ils ont reconstruit le temple, puis après les murailles. Et Néhémie a fait cette prière. Donc, on est 1000 ans après la promesse faite à Abraham. Hein. Et là, il s'en souvient. Il dit, c'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, qui l'a appelé Abraham, le nom était un peu changé. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis... J'ai donné la référence, Néhémie 9, 7, hein, pour donner. Je t'embête. Alors, tu as promis de donner à sa descendance le pays de Canaan, etc. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement car tu es juste. Si vous permettez, je reprends ça un petit peu avec un peu plus littéral selon le texte de base. Tu as trouvé le cœur d'Abraham fidèle. Je ne sais pas quand vous entendez le mot fidèle ou ici, ça vous fait penser à quoi ? Qu'est-ce que c'était le cœur fidèle d'Abraham ? On voit que le mot, ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe ou participe présent et que ce verbe en hébreu, c'est aman. Et si vous pensez aman, amen, vous avez compris que c'est la même racine, c'est le même sens. Aman, ça veut dire croire. Dieu... il est sensible et ce qui caractérise Abraham, c'est la foi. C'est vraiment la foi. Et là, c'est un cœur plein de foi. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, foi se dit emouna en hébreu, c'est aussi la même racine. Donc la foi, croire et amen, c'est tout du même. Hein. Et puis, à la fin, Néhémie rappelle et dit à Dieu, tu as agi de façon à respecter ton engagement. Là, c'est aussi beau en hébreu, c'est pas respecter, c'est tu as levé ta parole. Et vous savez qu'en hébreu, lever, koum, ça veut dire c'est la résurrection. Et c'est comme s'il y a une résurrection et c'est la parole, et la parole de Dieu, elle est efficace. C'est cette expression. Donc, on est à 1000 ans après la promesse. Maintenant, il y a un nombre au tableau qu'on ne nous dit pas, mais si on y réfléchit, c'est que c'est les Perses qui sont les grands souverains. Ils sont bien là, ces Juifs, ils sont contents, ils disent c'est la promesse qui s'accomplit, mais ils ne sont pas tout à fait maîtres chez eux. Ils doivent quand même obéir à ses pères. Et puis, c'est la fin de l'Ancien Testament, là. Si vous lisez chronologiquement, ça se termine. Et si ça se termine, l'histoire continue. Et après les Perses, c'est des Grecs qui sont devenus un peu souverains de toute la région. Et après les Grecs, c'est les Romains. Et les Romains, ben, vous connaissez parce que c'est le début du Nouveau Testament. Et là, on connaît l'histoire de Jésus, on connaît toutes ses relations avec ces Romains. Et quand Jésus est parti et ressuscité, la première église est apparue. Et 50 ans après, il y a eu une révolte juive et les Romains se sont fâchés et ils ont détruit le temple. 50 ans encore plus tard, de nouveau une fâcherie, et ils détruisent la ville, et puis ils débaptisent cette région qui s'appelait la Judée-Samarie, et c'est là qu'ils collent cette étiquette dont j'avais parlé une fois, la Palestine. C'est les Romains qui ont trouvé et qui ont repris ce mot, et qui ont dit que ça s'appelle la Palestine. Et finalement, les Juifs, de nouveau, n'étaient plus là. Il y avait toujours un petit reste de Juifs, mais le gros a été dispersé. Et là, vous prenez encore plusieurs centaines d'années, et puis, fini pour les Romains, c'est les musulmans qui viennent envahir cette région. De nouveau, quelques centaines d'années, et après, c'est les croisés qui viennent. Alors, vous ne savez peut-être pas qui sont les croisés, ben, c'est les croisades, c'est des, entre guillemets, chrétiens qui viennent depuis le nord d'Europe, hein, pour aller libérer, pour aller enlever les musulmans. Et en passant dans la vallée du Rhin, il y avait des juifs, ils tuent les juifs, j'entends, on voit l'esprit, hein, j'entends de tout ce fonctionnement. Et après, les croisés qui ont été là quelques centaines d'années, après, je ne sais plus bien, on dit les mamelouks, puis après, pour finir encore, les ottomans, donc les turcs. Il y a eu un immense empire turc pendant plusieurs centaines d'années. Et là, comme vous voyez, moi, je n'ai plus la Bible, hein, ici, la Bible ne raconte pas ces histoires. C'est pour ça que j'ai pris, j'allais dire, encore une autre. Ce n'est pas une Bible, mais c'est un livre d'histoire qui vient de sortir. Ça s'appelle « Les origines du conflit israélo-arabe ». C'est la collection « Que sais-je ?» section, donc histoire. Ce qui est pas mal avec de ce genre de bouquin, c'est qu'on a des faits factuels. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la religion, c'est de l'histoire. Et puis, là, dans ce bouquin, on voit qu'en 1850, il n'y avait pas encore eu beaucoup de mouvements. C'est un pays qui était assez désolé. Il y avait peu d'habitants. On pouvait faire dans la vallée de Jisrael, moi, je ne sais pas, 15 kilomètres. On ne voyait pas un chat, on ne croisait personne. C'était assez désolant, tout ça. Et en 1850, petite parenthèse, à Jérusalem, il y avait peu d'habitants, mais il y avait plus de Juifs que d'Arabes en 1850. Voilà. Et puis après, comme les Juifs ont été persécutés en Russie notamment, il y en a qui ont cherché refuge et ils sont venus se réfugier sur cette terre. Ce n'est pas qu'ils étaient forcément religieux, bien sûr qu'ils devaient quand même savoir qu'un jour leurs ancêtres avaient été là, mais ils sont venus pour se réfugier. Et puis c'était même plutôt des communistes, donc ils ont fait des communautés, des kibbutz, pour vivre cette communauté. Et puis là, il y a eu la guerre et les Ottomans ont perdu. Et c'est là que les Européens, donc les Français et les Anglais, sont intervenus. Puis comme eux, descendants des Romains, ben on a réactualisé le mot Palestine, qui comprenait un énorme territoire. Et puis, comme ils ont gagné la guerre, ils ont commencé à remorceler pour redonner les territoires aux habitants, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, sauf erreur aussi l'Irak. Et puis, ces pays ont été reconstitués après la Première Guerre. Il restait juste un bout encore, ben, c'est maintenant ce qui fait la Palestine et Israël. Ce dernière tranche, ça a été occupé par les Anglais pendant un certain temps. Dans cette période, j'ai aussi été étonné de lire dans ce bouquin, de 1922 à 1942, il y a encore des Juifs qui sont venus, bien sûr, mais il y a aussi eu une immigration arabe. Et la population arabe, elle a doublé entre 1922 et 1942, et pas uniquement parce qu'ils auraient eu des enfants, mais parce qu'il y a une immigration aussi, parce qu'il y avait des Arabes qui étaient pauvres dans d'autres pays, en Syrie, au Soudan, en Égypte, même Maroc. Il y a des Arabes qui sont venus aussi renforcer, pour de bonnes raisons, pour des questions financières. Juste pour donner un peu le... C'est intéressant de voir ces choses-là. Et puis, en 1948, après la guerre, on le redit peut-être, vous le savez, le 14 mai, l'ONU a décidé qu'on allait cette fois aussi donner ces territoires aux autochtones. Puis ils ont regardé, puis ils ont dit, bon, on va proposer un État juif et un État arabe. Deux États, la solution à deux États, comme on dit. Hein. Et là, ce 14 mai, je lis dans le bouquin, ce n'est pas la Bible, mais bon, si c'était la Bible, peut-être que ce serait aussi ça. Ce même jour, dans l'après-midi, au musée de Tel Aviv, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Ça fait combien ? 3500 ans. 3500 ans que la promesse a été faite à Abraham. Et ce jour-là, il y a un petit État Israël qui est créé avec une partie de ce territoire promis. Et ils sont souverains. Ce n'est pas juste comme avant où il y a des Romains, ils sont là, mais il y a des Romains. Donc, c'est assez exceptionnel. Et puis là, dans cette proclamation, écoutez, c'est beau, il faut quand même le savoir. L'État d'Israël qui se crée ce jour-là accordera la pleine et totale égalité sociale et politique à tous ses citoyens, ça veut dire arabes y compris, hein, sans distinction de race, de croyance, de sexe. Nous tendons la main à tous les pays voisins, parce qu'ils sont créés, mais il y a des pays voisins, nous tendons la main à tous les pays voisins et leurs peuples, et nous leur offrons la paix et des relations de bon voisinage. Là, on se dit, ben, s'il y avait eu un Néhémie, si on était dans la Bible, il y aurait un prophète, il aurait peut-être dit quelque chose par rapport à ça. Alors, il n'y a pas eu ça. Cependant, il y a quand même toujours eu des croyants parmi les Juifs, et puis ils vont à la synagogue le Shabbat, et le Shabbat, ça commençait juste 3-4 heures après cette proclamation. Ils vont, et puis là, ils ont l'habitude de lire selon un programme. Ils lisent, on sait qu'il y a la paracha chaque semaine, ils ont un nouveau texte qu'ils prennent, et puis il y a aussi la haftara. Et la haftara, c'est quelque chose qui est pris dans les prophètes. Et voilà qu'ils lisent, par hasard ou par coïncidence, dans Amos 9, verset 14, c'est la lecture qui est là, il y a 3 heures que l'État d'Israël existe, « Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. » Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Donc cette parole, elle a été proclamée ce jour-là. Et ce jour-là, et dans ce livre, je lis aussi, parce qu'il devait y avoir normalement l'État arabe. Le 14 mai 1948, le Haut Comité arabe aurait dû proclamer l'État arabe de Palestine, mais il s'y refuse, car c'eût été accepté de facto le partage. Donc s'il n'y a pas eu d'État palestinien, c'est parce qu'il ne voulait pas reconnaître l'État d'Israël. Et le lendemain matin, vers 6 heures du matin, il y a 5 nations qui sont autour, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, qui attaquent ce petit Israël, qui n'était pas soutenu par les Américains, qui n'était pas soutenu par les Anglais, ni par les Français, parce qu'il y avait un boycott total. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et je vous cite, après j'arrête quand même, je cite encore une parole qui a été dite par le secrétaire général de la Ligue arabe, qui comprend un peu tous ces pays. Et qu'est-ce qu'il dit, cette parole terrible ? Nous vous effacerons, donc il parle aux Juifs, vous les Juifs, on va vous effacer de la surface de la terre. Ce sera une guerre d'extermination et un massacre mémorable dont on se souviendra comme des massacres mongols et des croisades. Heureusement, donc, ça n'a pas eu lieu. Israël est toujours là aujourd'hui. Donc ça, c'est la promesse, j'allais dire, c'est l'alliance, c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham et ses descendants. Et je vais prendre juste parallèlement, je dirais, une autre alliance, quoique tout est lié. Et c'est dans Exode, alors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte avec Moïse. Vous savez que Moïse est allé sur le Sinaï, qu'il a reçu les tables de la loi et des instructions. Et puis dans ce Exode, là je cite simplement les titres, je ne lis pas le texte, mais Exode 20, il y a eu les 10 commandements, qui sont les 10 paroles du point de vue de la Bible. Et puis ensuite, je lis, il y a des relations entre maître et esclave. Ce qui veut dire, c'était un nouveau pays, il fallait des lois civiles, des lois pénales, des lois religieuses. Tout est un peu mélangé, même si tout a un sens, et puis c'est aussi écrit à cette époque. Hein. Il y a ensuite dommages corporels et sanctions, il y a plusieurs versets à ce sujet, préjudice et réparation, prescriptions diverses. Quand nous on lit ça, c'est un peu fastidieux si on veut. Mais il fallait lancer tout ça. Puis après, règles morales, les fêtes et le Shabbat, instructions concernant la conquête, etc. Et puis, quand tout ça s'est fait, tout ça a été écrit, a été mis dans un livre. Bon, c'était des rouleaux, j'entends, mais c'est le mot livre qui est utilisé. Et puis, là, Moïse, il prend tout le monde, tout le peuple, devant lui, et puis, c'est écrit, 24, Exode 24, verset 7, il prit le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Donc, ce livre de l'Alliance, ce n'est peut-être pas la parole que Dieu a donnée à Abraham, c'est vraiment un livre où on a écrit tout ce que je viens de vous dire. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit, ce peuple ? Ils s'engagent, ils disent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. C'est un engagement, ils décident d'obéir à ces paroles de cette alliance. Moïse prit le sang, on aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance. On est du temps de Moïse. Moïse prend du sang. Mais le sang de quoi? Le sang de taureau. Si on voit juste avant, il y avait des sacrifices. Et puis là, ils en avaient récolté le sang. Et puis, Moïse les asperge le peuple et il dit, voici le sang de l'Alliance. Et là, on réfléchit un peu, on dit, ah mais quand Jésus, il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. On commence à comprendre qu'il y a une première alliance, celle-là, et puis qu'il y a une alliance qui est renouvelée. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Juifs ou ces Israélites, vous croyez qu'ils ont pu tenir parole? Ils ont dit, nous obéirons? Ben pas forcément. Pas comme nous on aurait réussi, on aurait obéi, bien sûr. Voilà, bon. On ne va pas leur lancer la pierre, hein. Et puis, dans Jérémie 31, c'est facile à se souvenir, pourquoi moi, 31, comme ça va. Jérémie 31, on va lire ça. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, donc Jérémie c'est un prophète, hein, et il dit, voici les jours viennent où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il fait bien allusion à ce que je viens de dire avant. Eux, le peuple, hein, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais le maître, leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici, promesse, voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leur péché, Israël. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus a dit « Voici le sang de la nouvelle alliance », je dis de tête, mais je crois qu'il a dit « Prenez-en tous ». Mais dans ce « tous », ce n'est pas seulement pour les descendants d'Abraham. D'ailleurs, un jour, Jésus l'a dit, « De ses pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham hein. ». Donc, il y a une promesse extraordinaire, nous sommes aussi, pour tous ceux qui le veulent, greffé, comme dit Paul, on est greffé sur ce pied de vigne et les promesses sont aussi pour nous, ce qu'on vient de lire là. Et puis aussi, ici on a vu, hein, je crois, la nouvelle alliance, hein, enfin c'est une, je cherche le terme, mais donc on a vraiment une alliance nouvelle qui est déclarée ici. Et si vous remarquez, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait séparer, dire « Ah, tout ce qu'il y a avant, c'est de l'Ancien Testament. » Il y a des fois des gens, quand c'est un peu compliqué à expliquer, ils disent « Ah, c'est de l'Ancien Testament. » Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vraiment lié et on trouve la Nouvelle Alliance, j'allais dire le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et inversement, le Nouveau Testament, ils n'avaient pas de Bible à cette époque-là. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils puisent leur force aussi dans cet Ancien Testament. Et je termine par ce n'est pas une anecdote, hein, c'est un témoignage. Donc maintenant, ces dernières semaines, j'ai été en contact dans le cadre de mon apprentissage de l'hébreu, avec une enseignante qui était à Tel Aviv. Et puis, juste après, 2-3 jours après ces événements du 7 octobre, elle me dit, spontanément, elle me dit, mais en Israël, les gens sont pas, la majorité ne sont pas des religieux. Hein. Nous, on voit les juifs avec un petit chapeau, des trucs. C'est une minorité. Puis encore là-dedans, il y a les extrémistes et tout. Mais le gros morceau du peuple d'Israël, ils sont athées, j'allais dire comme nous, pas comme vous, mais comme dans nos pays, j'attends. Ils vivent la joie, ils sont heureux de vivre, et ils ont vécu ça, et ça les a secoués. Elle me dit comme ça, elle me dit, mais les gens à Tel Aviv, dans la rue, eux qui ne parlaient jamais de Dieu, ils parlent tous de Dieu, on entend le mot Dieu dans la bouche de tout le monde. Et eux, ils disent qu'ils prient. Ils prient pourquoi? Peut-être pas forcément pour eux, mais pour la vie aussi des otages. Et moi, j'ai pas discuté, j'ai pas voulu trop demander, j'ai seulement écouté. Elle dit, alors qu'ils ne faisaient pas tellement la relation entre Dieu et la terre, aujourd'hui, ils comprennent la relation entre Dieu, la terre et eux. Intéressant de voir comment en un week-end, le cœur de milliers, de centaines de milliers, de millions de gens, tout d'un coup, peuvent être interpellés par ce qui se passe. Et puis, il y a eu d'autres fois où j'ai été, et notamment il y a 10 jours, et elle me dit, les gens sont tristes. On ne se rend pas compte, nous ici, on fait nos cris, ta-ta-ta-ta-ta, mais il y a une tristesse dans ce pays, les gens sont tristes. Ils sont tristes à cause de ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils sont aussi tristes parce que le monde entier est quand même en train de les critiquer, ne les comprend pas. Il y a une tristesse, et le mot « triste », je l'ai noté, etzev. Etzev, c'est en hébreu moderne. Enfin, okay. Puis elle me dit, et je réalise, ce etzev, cette tristesse, c'est le même mot qu'on trouve au début de la Bible quand Ève, Dieu s'adresse à elle, non pas pour la condamner, on ne remarque pas, Dieu ne fait aucun reproche à Ève, mais il y a quand même une conséquence à la désobéissance que son mari, elle peut-être aussi, on fait, et puis là, si je ne le trouve pas, je ne vais pas le chercher parce que vous connaissez, et Dieu lui dit, comme conséquence, tu auras des souffrances au moment de l'accouchement et tu auras des douleurs. Et ce mot douleur et ce mot souffrance sont aussi liés, mais le mot surtout douleur, c'est exactement ce que je vous disais, ce mot qui est devenu triste, qui est ce etzev. Ce qui veut dire que peut-être ce que nous on traduit par douleur, pour Ève, c'est aussi une grande tristesse. C'est-à-dire que le moment d'un accouchement pour une femme, oui, elle souffre, mais il y a comme quelque chose qui est triste sur le moment. Parce qu'on sait que cette souffrance, elle annonce quelque chose. Et pour moi, quand j'ai entendu ces témoignages d'Israël en me disant, mais ils sont tristes, puis qu'elle me fait cette relation avec Ève, je n'ai rien dit, mais je ne sais pas si ça vous suggère quelque chose, à vous, ces événements qu'on vit. Voilà, ce matin, je me suis dit, je partage avec vous ces réflexions, parce que pour moi, c'est un encouragement, tout ce qui se passe, même si c'est dramatique, mais c'est un signe, comme Abraham qui disait, à quoi je reconnaîtrai? À quoi je reconnaîtrai que la Bible est vraie? À quoi je reconnaîtrai? On y croit, mais à quoi? Il y a des signes qui sont en train de se passer maintenant. Soyons-en juste conscients et ayons compassion pour ce peuple. Voilà.